Accent d'Europe, Juliette Garbrandt.
Bonjour et bienvenue. Accent d'Europe aujourd'hui en Grèce, à la découverte de Thessalonique, la capitale du Nord qui veut rivaliser avec Athènes, et en Suisse, sur les traces du colonialisme d'un pays pourtant sans colonie. Mais pour commencer, direction l'Irlande, avec le mot de la semaine, Soup Kitchen, car à Dublin, la distribution de repas chauds sans-abri est menacée. En Irlande, donc, c'est en pleine vague de froid que la capitale a évoqué l'interdiction des soup kitchens, c'est-à-dire de la distribution dans la rue de repas chauds aux sans-abri. Depuis, les associations crient au scandale, elles manifestent et le tollé a pris une telle ampleur que la maire de Dublin a décidé d'aller sur le terrain en fin de semaine pour rencontrer les acteurs du secteur et les bénéficiaires. Bonjour Clémence Pénard.
Bonjour.
Correspondante en Irlande, vous étiez à la manifestation de la semaine dernière.
Alors que le thermomètre la semaine dernière affichait des températures négatives, une centaine de manifestants, bien couverts, bonnets et gants et tête sortie, ont protesté devant l'hôtel de ville, parmi eux Omar, bénévole pour l'association Tachnouva Chamim, qui distribue tous les vendredis soirs en plein centre de Dublin près de 300 repas.
Ce sont des services essentiels. Il y a des lacunes dans ce que la ville peut fournir et nous comblons ces lacunes. On a plusieurs casquettes. Il ne s'agit pas seulement d'apporter de la nourriture, des vêtements, des couvertures et des sacs de couchage. On apporte aussi un soutien émotionnel. Nous pouvons apporter des conseils et vous savez, parfois, tout ce dont les gens ont besoin, c'est d'une oreille attentive.
Et le nombre de personnes à la rue est en outre en forte hausse dans le pays.
Oui, 15 200 personnes sont sans-abri selon l'ONG Focus Ireland, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré, comme le rappelle Conor Reddy, membre du parti politique People Before Profits.
Nous n'avons jamais vu une telle demande pour les soupes populaires. Focus Ireland a publié un rapport l'année dernière. Leurs services étaient débordés, ceux des autres ONG aussi, et le gouvernement ne s'en est pas soucié et ne leur a pas proposé d'aide supplémentaire. Si on retire ces services aux gens, ils auront faim et n'auront plus de quoi s'habiller non plus.
Et la crise du logement est telle en Irlande que, d'après Jenny, étudiante, n'importe qui peut se retrouver en difficulté. Pour elle, l'interdiction des soupes populaires devrait donc provoquer l'indignation dans tout le pays.
C'est encore une façon de mettre la pauvreté sous le tapis et d'ignorer les sans-abri. Il faut protester. Moi-même, je suis bien plus près de me retrouver à la rue que de gagner des millions, ou même juste d'avoir un jour ma propre maison.
Clémence, qu'est-ce qui motive les projets de la municipalité ?
Eh bien, l'un des arguments principaux, c'est le manque de sécurité, mais aussi de dignité de ces distributions. Mary Hayes, la directrice du DRHE, l'organisme gouvernemental chargé de coordonner le problème des sans-abri à Dublin, était interrogée sur la radio Newstalk.
Je ne dénigre pas du tout ce que font les soupes populaires. C'est fantastique que les gens donnent de leur temps pour faire ça. Mais je pense que nous pourrions faire mieux et de manière plus coordonnée.
Et pas nécessairement dans la rue.
Non, pas dans la rue. C'est désorganisé, c'est très improvisé. Il faut des endroits plus dignes pour les personnes qui profitent de ces services. Il faut aussi mieux répartir les soup kitchens dans la ville.
La mairie de Dublin se base sur un rapport indépendant commandé il y a 3 ans, selon lequel les soup kitchens mettent en danger la santé et la sécurité des bénéficiaires. Il estime que les distributions favorisent des comportements antisociaux et du trafic de drogue. Et il recommande que les repas soient distribués dans des établissements et non dans la rue. Ce qui révolte Dara, présent lui aussi à la manifestation devant l'hôtel de ville.
Eh bien qu'ils nous donnent des locaux au lieu d'interdire les soup kitchens. S'ils ne veulent pas que les gens vivent dans la rue, il faut qu'ils résolvent les problèmes de pauvreté. Mais ce qu'ils veulent, c'est cacher le problème, pour que les touristes n'aient pas à voir des tentes et des gens en train de manger à même le sol. Chaque année, le gouvernement dégage un excédent budgétaire. Il y a des milliards d'euros dans un fonds de réserve qui ne sont pas utilisés. Et pourtant, 15 000 personnes sont sans abri. C'est donc un choix politique.
Les associations partagent le même avis que Dara. Interdire les soupe populaire est une tentative de nettoyer la ville sans s'attaquer aux causes profondes qui expliquent l'augmentation du nombre de sans-abri en Irlande. Alors qu'en effet, comme le dit Dara, grâce aux impôts des sociétés de la tech, l'Irlande a un budget excédentaire conséquent et le deuxième PIB par habitant de l'Union européenne.
Merci Clémence Pénard, à bientôt. La Suisse fait son examen de conscience coloniale. Bien sûr, elle n'a jamais possédé la moindre colonie. Et quand on pense aux pays qui ont prospéré grâce à leurs colonies, on pense d'abord à la France, au Royaume-Uni, à la Belgique ou à l'Espagne, par exemple. Pourtant, la Confédération a largement participé au fait colonial à travers des entreprises et des individus. À Zurich, le Musée national consacre une grande exposition à ce pan de l'histoire longtemps passé sous silence. Jérémy Lanche.
À quoi reconnaît-on une puissance coloniale ? À ses colonies, la Suisse n'en a jamais eu officiellement, aux esclaves qui cultivent les champs, jamais personne n'a vu d'Africains forcés de travailler les vignes qui surplombent le lac Léman. C'est donc tout naturellement qu'en 2017, la présidente de la Confédération Suisse, alors en visite au Bénin, se réjouit en public que son pays n'a jamais participé à la traite des esclaves. Sauf que rien ne pourrait être plus faux.
La Suisse officielle n'a jamais été une puissance coloniale, ça c'est bien connu, et ça c'est le narratif aussi qu'on connaît, qui est correct.
Marilyn Umurugi est la co-commissaire de l'exposition Colonialisme, une Suisse impliquée.
Malgré le fait que la Suisse n'a jamais possédé de colonies et que n'a jamais été une puissance coloniale, elle a eu, comme les pays qui l'entouraient, des pratiques coloniales. Donc on le voit dans la science, on voit dans la façon comment on a fait du commerce à partir du 16e au 19e siècle, on le voit dans la façon comment les groupes missionnaires ont été missionnés, on le voit dans son implication dans le commerce avec les gens réduits en esclavage. Donc il y a plusieurs formes où la Suisse a adapté les mêmes pratiques.
Dès le 16e siècle, l'économie suisse profite de l'expansion coloniale européenne. Des entreprises, des hommes d'affaires investissent dans le commerce de denrées comme le café, le cacao ou le coton, et donc dans le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et le Nouveau Monde.
Par exemple, des compagnies comme la compagnie baloise Christophe Porcartier, ils ont investi dans des bateaux de traite, ils ont investi dans le commerce avec les Indiennes. Les Indiennes, c'est des tissus, c'est du coton qui a été fait imprimer, et ça on appelle ça des Indiennes parce que c'est une technique qui vient directement de l'Inde. On a échangé ça contre des personnes réduites en esclavage.
Pour preuve, ces menottes utilisées sur des esclaves dans des plantations contrôlées par des Suisses au Ghana, ce fouet d'un autre ressortissant suisse recruté comme fonctionnaire au Congo colonial. Des recherches récentes estiment qu'entre le 16e et le 19e siècle, la Suisse est responsable de la déportation d'environ 172 000 esclaves africains. C'est peu en comparaison aux 12 millions de personnes arrachées au continent, mais c'est beaucoup pour un pays sans colonie. Tout ça interpelle forcément les visiteurs, surtout quand ils sont jeunes. Fabrizio, 18 ans.
C'est complètement nouveau pour moi. J'ignorais totalement que la Suisse était autant impliquée.
Ce n'est pas quelque chose que vous apprenez à l'école ici ?
Non, on nous donne juste les bases de l'histoire coloniale. Mais là, j'ai appris qu'il y avait un versant suisse.
Le nom de certains bateaux utilisés pour transporter des esclaves jusqu'en Amérique laisse d'ailleurs peu de doutes sur l'origine des armateurs. Ville de Lausanne pour un, Helvétie pour un autre. Et il faut aussi parler des nombreux mercenaires employés par les puissances coloniales pour maintenir l'ordre dans leur dominion. L'exemple le plus connu est peut-être celui d'Haïti, où Napoléon a fait appel à des mercenaires suisses pour mater la révolte de Toussaint Louverture et rétablir l'esclavage.
L'histoire avec Haïti, c'est qu'il faut dire environ 700 mercenaires suisses qui étaient envoyés. Beaucoup sont morts avant même d'arriver là-bas. Plus que 500 sont morts dans cette révolution haïtienne. Mais on oublie qu'il y a eu plus de 250 révolutions en fait dans toute cette histoire d'esclavagisme, et avec beaucoup plus de mercenaires suisses dont on ne parle pas.
Le colonialisme dans les actes et dans les écrits. À Zurich comme à Genève, des penseurs ont élaboré quantité de théories raciales pour donner une légitimité à l'esclavage.
La Suisse a été même pionnière dans le développement de certaines méthodologies, notamment pour mesurer le crâne, développer des nouvelles typologies de races, notamment par exemple Otto Schlagenhauffen. Après, on a aussi Agassiz, qui a développé une théorie qui puisse montrer que les personnes noires, les personnes réduites en esclavagisme, ont des corps différents qui sont faits pour travailler sur les champs, pour faire des travaux durs, beaucoup plus que les corps caucasiens, les corps blancs.
Cela fait quelques années maintenant que les Suisses découvrent ce pan longtemps méconnu de leur histoire. Le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis y est pour beaucoup. À Neuchâtel, la statue du bienfaiteur de la ville et marchand d'esclaves, David de Pury, a ainsi été recouverte de peinture rouge avant qu'une œuvre critique ne soit installée juste à côté. À Genève, l'université a choisi de débaptiser le bâtiment Karl Vogt, médecin, premier recteur de l'université et auteur de thèses racistes et misogynes. Justice pour les uns, soumission à la culture woke pour les autres. Le débat est vif en Suisse. Et c'est sans doute l'un des mérites de ce genre d'exposition. Colonialisme, une Suisse impliquée, c'est à voir jusqu'au 19 janvier au Musée national de Zurich.
Et la réflexion sur le passé colonial ne se fait pas non plus sans heurts dans de nombreux autres pays européens. Même si depuis plusieurs années, les pays colonisateurs se sont tous plus ou moins engagés dans ce travail, les débats restent vifs. On en parle avec vous, Frédéric Lebel. Bonjour.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Prenons l'exemple de la France pour commencer et du massacre de Thiaroye qui montre à quel point les résistances sont grandes.
Oui, le 1er décembre 1944, des dizaines voire des centaines de tirailleurs sénégalais ont été tués par l'armée française parce qu'ils avaient réclamé le paiement de leurs soldes. Longtemps, ce massacre a été présenté comme une réponse à une mutinerie. Ce n'est qu'en 2012 que le président François Hollande parle de répression sanglante et il faudra attendre cette année pour que pour la première fois, le président Emmanuel Macron parle de massacre. Le Sénégal, mais aussi l'Algérie, sont bien sûr une priorité pour la France. Une commission d'historiens algériens et français planche depuis 2022 sur la mémoire de la colonisation. Et malgré la dégradation récente des relations entre les deux pays, la France a enfin reconnu l'année dernière sa responsabilité dans le massacre du 17 octobre 1961 à Paris, au cours duquel des manifestants pacifistes algériens ont été tués par la police et jetés dans la Seine. Mais les tabous restent immenses. Si l'on en croit les non-dits lors du décès de Jean-Marie Le Pen, l'ancien leader du Front National, parachutiste durant la guerre d'Algérie, a redit lors d'une interview enregistrée par Le Monde qu'il avait bien torturé sous les ordres de son capitaine.
Et certains pays européens, Frédéric, n'ont pas franchi ce pas des excuses officielles.
Oui, c'est le cas en Belgique, par exemple. Le roi Philippe a exprimé en 2022 ses regrets à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour, je cite, « les humiliations et exactions dues à la colonisation ». Regrets, mais non excuses officielles. Le royaume a aussi reconnu sa responsabilité morale dans l'assassinat en 1961 du Premier ministre Patrice Lumumba. Quant à la commission d'enquête parlementaire sur le passé colonial belge, mise en place en 2020, elle n'a toujours pas rendu ses conclusions.
La Belgique, qui est très en pointe dans la démarche critique de ses musées coloniaux.
L'ancien musée Tervuren, palais érigé à la gloire du colonialisme, a fermé ses portes plusieurs années pour réouvrir sous le nom d'Africa Museum. On estime que le pays abrite la plus grande collection mondiale d'art africain, 180 000 pièces. Un inventaire de 80 000 d'entre elles a d'ailleurs été transmis aux autorités congolaises. L'idée, bien sûr, à terme, la restitution d'un certain nombre de pièces emblématiques, comme l'ont été les 26 trésors du 11e roi du Dahomey. Elles étaient en France, elles ont retrouvé leur place au Bénin.
Excuses des politiques, restitution, rue ou place débaptisée, le chantier est immense car il inclut aussi des angles morts du colonialisme dans la pensée européenne.
Oui, en témoigne la récente polémique sur la journée de fête nationale en Espagne, la Hispanidad, célébrée tous les 12 octobre en mémoire de la première escale de l'expédition de Christophe Colomb sur l'île de San Salvador en 1492. Officiellement, on célèbre la rencontre de deux mondes, mais ses détracteurs dénoncent bien sûr le génocide des peuples indigènes et des siècles de pillage. La journée est désormais célébrée au Venezuela comme celle de la résistance indigène. Cette année, au Guatemala, on a voulu faire tomber la statue de l'explorateur génois. Enfin, la nouvelle présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a refusé d'inviter le roi d'Espagne à son investiture. Tant que les crimes commis durant la conquista ne seraient pas reconnus, là aussi, l'histoire reste à écrire.
Merci Frédéric, à bientôt.
Merci.
Sans transition, comme on dit, direction Thessalonique, au nord de la Grèce. Moins renommée qu'Athènes, la deuxième plus grande ville du pays veut attirer les touristes et elle ne manque pas d'atouts. Un héritage culturel varié, une situation géographique exceptionnelle. Elle développe aussi ses infrastructures. Un aéroport international agrandi et tout récemment, une première ligne de métro. Visite guidée avec Joël Bronner.
La Tour Blanche, ancienne prison fortifiée ottomane devenue le symbole de la ville, la très chic et imposante place Aristote sur le front de mer, ou encore l'église Sainte-Sophie, monument qui mélange l'art paléo-chrétien et byzantin, voilà quelques-uns des principaux bijoux de Thessalonique. Ces dernières décennies toutefois, ce sont surtout les autres trésors de la région qui incitaient les visiteurs à faire le déplacement. Depuis les hauteurs de la ville, Panayota Triandafilopoulou, guide touristique, domine la mer du golfe
Thermaïque.
D'ici, en une heure de route vers le sud, on peut rallier le célèbre mont Olympe. En faisant route vers l'ouest, on peut rejoindre le site archéologique de Vergina, où se trouve le musée des tombes royales, l'un des plus importants trésors archéologiques de Grèce. Et si vous partez vers l'est, il y a le site archéologique de Philippe, à côté de la ville de Kavala.
Sur la route des trésors historiques de la région, la Thessalonique contemporaine, largement dévastée par un grand incendie en 1917, n'a donc longtemps été qu'une ville-étape depuis laquelle on rayonne. Or, rayonner par elle-même, c'est ce que cherche à faire ces dernières années la deuxième ville de Grèce, en mettant en avant sa propre histoire. Du monument de la Rotonde, hérité de la Rome antique, jusqu'à la maison de naissance du dirigeant turc Mustafa Kemal, dit Atatürk. Vangelis Liakos, cofondateur d'une agence de design à succès.
Nous continuons à préserver les valeurs de multiculturalisme que la ville arborait autrefois lorsqu'elle abritait des personnes de toutes les nations. Thessalonique comptait par exemple 7 journaux différents, écrits dans des langues différentes. Tout cela a radicalement changé avec les guerres, les échanges de populations et l'ensemble des bouleversements du XXe siècle. Notre ville s'est progressivement retrouvée enfermée dans une identité grecque imposée et dans laquelle nous sommes encore piégés. Nous n'avons pas vraiment réussi à trouver notre propre identité au sein de cette Grèce-là. Mais petit à petit, c'est en train de changer et ce changement ne peut se faire qu'en apprenant l'ensemble de notre histoire et en l'acceptant pleinement. Que ce soit l'héritage ottoman, la tradition juive ou bien sûr l'identité grecque. Ce sont toutes ces choses réunies qui nous définissent aujourd'hui.
Ce n'est qu'en 1912, au cours des guerres balkaniques, que Thessalonique quitte le giron ottoman pour être intégrée à la Grèce. Son histoire moderne est ensuite marquée par le retour forcé des Grecs d'Asie mineure, la Shoah et la guerre civile grecque. Le travail mémoriel sur l'identité historique de la ville, les habitants l'imputent en grande partie à l'héritage du maire charismatique Yanis Boutaris, décédé fin 2024. Attablé à l'extérieur d'un élégant café de la place Aristote, Spiros Pengas, son ancien maire adjoint, revient sur les conséquences de ce travail sur le secteur touristique.
En 2011, quand notre équipe municipale est arrivée, il y avait très peu de tourisme. On comptait à peine 1 million de nuitées par an et les 3/4 des visiteurs étaient des Grecs. Quand nous sommes partis en 2019, nous avions dépassé les 2,5 millions de nuitées. Et ça sans compter les hébergements Airbnb qui avaient émergé. En ce qui concerne les visiteurs, plus de la moitié étaient des étrangers.
Fin 2024, un plan d'action pour le développement touristique de Thessalonique a été publié. Outre la finalisation d'infrastructures de transport, le rapport préconise également d'améliorer la propreté de la ville, la qualité des routes et des trottoirs, et d'ajouter de la verdure et des parkings. Ce n'est qu'à ce prix, selon ses auteurs, que la deuxième ville de Grèce, 2 fois plus petite et 3 fois moins peuplée qu'Athènes, pourrait alors devenir véritablement attrayante et séduire encore davantage de visiteurs internationaux.
À la réalisation d'Accent d'Europe, Théo Raison. Restez avec nous dans quelques instants. Grand reportage avec le premier volet de notre série sur le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. À bientôt.